découverte du ciel à la découverte de l'univers, à la découverte aujourd'hui, les amis, des météorites. Oui, c'est Alain et on commence notre émission de l'astronomie par l'actualité. Notez, le vendredi 27 juillet, Mars sera, comme on dit, à l'opposition. Ça veut dire que Mars, la Terre et le Soleil seront parfaitement alignés dans cet ordre. Mars sera à 58 millions de kilomètres de la Terre. Et ça en fera une cible privilégiée pour tous les télescopes des amateurs. D'ailleurs, Mars sera visible tout l'été, Mars sera la star de l'été. Il faudra ensuite attendre un peu plus de 2 ans pour retrouver des conditions d'observation aussi favorables. Le 27 juillet, toujours, éclipse totale de Lune. En Béarn, quand la Lune va se lever, l'éclipse aura déjà commencé. La Lune aura une teinte rouge plus ou moins sombre. Alors, les éclipses totales de Lune sont beaucoup moins rares que les éclipses totales de Soleil, mais, les amis, c'est pas une raison pour la rater. Le 27 juillet. 2 jours plus tard, le 29, un anniversaire. La NASA fête ses 60 ans. Autre chose. Le 18 avril dernier, lancement depuis Cap Canaveral du télescope TESS, ça veut dire Transit Exoplanet Survey Satellite. Ce télescope est dédié à la détection des exoplanètes par la méthode des transits, c'est-à-dire par la diminution de luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant. C'est un petit télescope, il fait 10 cm de diamètre. Sa mission est prévue pour durer 2 ans et on espère qu'il va découvrir entre 1000 et 10 000 exoplanètes. Une fois qu'une exoplanète sera découverte, à ce moment-là, les grands télescopes, que ce soit au sol ou en orbite, prendront le relais pour observer l'étoile et son exoplanète. Encore, le 25 avril dernier, un événement attendu, je dirais même plus un événement guetté par la communauté des astrophysiciens, c'est la publication du second catalogue Gaïa. Gaïa, c'est un télescope européen en orbite, moins connu que Hubble, bien sûr, mais qui est dédié à l'astrométrie. Et dans ce catalogue, il y a des données concernant 1,7 milliard d'étoiles. C'est 1% de la Voie lactée. Alors ces données, c'est position, distance, mouvement de l'étoile, luminosité de l'étoile, et puis analyse spectrale. Tout ça avec une précision équivalente à celle qu'il faudrait pour voir une pièce de 1 euro sur la Lune. Une fois que le catalogue est publié, il y a un gros travail de dépouillement et d'interprétation qui va avoir lieu. Encore un autre événement, le 5 mai dernier, le lancement d'InSight. InSight, c'est une sonde de la NASA qui va se poser sur Mars le 26 novembre, si tout se passe bien, pas loin d'ailleurs de Curiosity. Mais cette sonde ne se déplacera pas. Elle est munie d'un bras robotisé qui va déposer à même le sol de Mars un sismomètre ultra sensible. Ce sismomètre est cocorico. Ce sismomètre est fabriqué par les Français, par le CNES. Le but, c'est de connaître l'activité sismique de Mars pour pouvoir imaginer comment est fait l'intérieur de la planète rouge. InSight a été lancé par une fusée Atlas 5 depuis la base de Vandenberg, c'est près en Californie, près de Santa Barbara, et c'est une première, c'est la première fois qu'une sonde interplanétaire décolle de la côte ouest des États-Unis. Voilà pour l'actualité aujourd'hui, alors n'oubliez pas l'éclipse totale de Lune du 27 juillet. Et maintenant, place aux météorites. Météorite, c'est un mot qui vient du grec météoros, qui signifie en suspension dans l'air. Il peut y avoir du liquide, de l'eau météorique, c'est la pluie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les solides que les liquides. Un petit peu de vocabulaire pour commencer. Quand un objet est dans le ciel, on appelle ça un météoroïde. Quand il y a une manifestation lumineuse, on appelle ça un météore. Alors c'est des étoiles filantes, c'est des bolides, mais c'est aussi la foudre et puis les éclairs. Et quand cet objet tombe sur Terre, ça devient une météorite. Donc les météorites, c'est uniquement au sol. Et des météorites, il en tombe. Il en tombe environ 100 tonnes par jour. 100 tonnes par jour, les amis, sur Terre. Il y a toutes les dimensions. Ça va du micron à quelques kilomètres. Et les grandes questions, c'est... ces météorites, c'est quoi et d'où ça vient? On commence par les plus petits. Les poussières, dont la taille est inférieure à 10 microns. Alors, c'est là où on ne les voit pas arriver, parce qu'en dessous de 10 microns, il n'y a pas de manifestation lumineuse dans le ciel. Ce sont ce qu'on appelle des poussières interstellaires. Ça représente presque 40% de ce qui nous arrive. Les poussières interstellaires. Entre les étoiles, on pourrait s'imaginer qu'il n'y a rien. Rien que du vide, un vide sidéral. Pas du tout, pas du tout. Il y a parfois, par endroits, ce qu'on appelle des nuages moléculaires qui s'étendent sur des distances, alors là, des distances astronomiques, hein, c'est 5000, 10 000 milliards de kilomètres, par exemple. Ces nuages moléculaires sont formés typiquement de 89% d'hydrogène, 9% d'hélium et 1% de gaz un peu plus complexe, et puis aussi 1% de ces poussières qui nous intéressent. Notons quand même qu'à l'intérieur d'un nuage moléculaire, c'est très ténu, c'est presque du vide. Hein. Un vide d'ailleurs qu'il est impossible d'atteindre avec les instruments terrestres les plus perfectionnés. Ces nuages se sont formés lors de l'explosion d'étoiles en fin de vie qui éjectent leur couche externe dans un espèce de grand feu d'artifice cosmique. C'est les novas, les supernovas. Et ces nuages peuvent à leur tour, suite à des perturbations gravitationnelles, s'effondrer sur eux-mêmes et donner naissance à de nouvelles étoiles. Voilà comment meurent et comment naissent les étoiles, les amis. Les nuages moléculaires, on en connaît de nombreux dans la Voie lactée. Ils masquent complètement les étoiles qui sont en arrière-plan. On voit une zone qui est noire, on dit « tiens, il n'y a pas d'étoiles ». Pas du tout, c'est parce qu'il y a juste un nuage devant. Mais revenons à nos poussières interstellaires, nos poussières d'étoiles. Ce sont des particules de quelques dizaines à quelques milliards d'atomes. Dimension, de l'ordre du micron. Le poids, de l'ordre du milliardième de milligramme. On pourrait comparer ça à de la fumée de cigarette. Chimiquement, il y a des silicates, du carbure de silicium, des oxydes de fer, des oxydes de magnésium, il y a du carbone sous forme de graphite, et puis des métaux, magnésium, du fer, du silicium, du nickel, etc. On a pu en récolter quelques grains en équipant de collecteurs les ailes d'avions qui volaient très haut dans la stratosphère. Vous savez, les célèbres U-2, les célèbres avions espions américains des années 60. Et puis la mission Stardust. Stardust, c'est la sonde qui a traversé la queue de la comète Wild 2 en 2003. Elle a récupéré, avec des collecteurs spéciaux, à peu près 1000 grains de poussière. Et parmi ces 1000 grains, il y avait 7 grains qui ont été identifiés comme des grains de poussière interstellaires, et c'était des silicates de magnésium. Bon, évidemment, sur Terre, elles sont très difficiles, voire impossibles à récolter. Une autre catégorie de micrométéorites, celles qui proviennent des comètes, ce qu'on appelle les poussières cométaires. Elles donnent des météorites nettement plus gros, hein, de l'ordre de 0,1 mm, par exemple. Et ça donne, pas que ça, ça donne aussi des étoiles filantes. Et oui. Oui, parce que quand une comète s'approche du Soleil, elle développe une queue de poussière. Alors, ces queues de poussière, ce sont des petits grains de matière qui peuvent atteindre la taille d'un grain de riz. La comète s'en va, mais les poussières, elles restent. Et quand la Terre, quand elle fait le tour du Soleil, rencontre ces nuages de poussière, eh bien, les grains de poussière pénètrent dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 50 km par seconde. 50 km par seconde. Et vers 80 km d'altitude, ben les petits grains ils s'échauffent et puis ils vont ioniser l'air traversé. Ça forme comme un tunnel d'environ 10 mètres de diamètre. Et c'est ça qu'on voit. C'est très brillant. C'est ça l'étoile filante. C'est pas le tout petit grain de poussière d'un millimètre qui brûle à 80 km. Non, non, celui-là, on ne le voit pas. Non, non, c'est le tunnel ionisé. Le résidu de la combustion, quand il y en a un, eh bien, c'est ce qu'on appelle la poussière cométaire, parce qu'elle provient d'une comète, mais elle peut aussi parfois provenir d'un astéroïde. Ces poussières, c'est un dixième de millimètre. Hein. Et vous pensez bien qu'elles ne sont pas faciles à récupérer. Sur Terre, il faut aller dans les endroits, dans les déserts glacés, dans des endroits où il n'y a rien. Le Groenland. Mais surtout, du côté du pôle sud, près de la station Concordia. Parce que là, depuis 20 ans, tous les ans, il y a des campagnes de récupération de poussière cométaire. Alors, en gros, on fait fondre la neige et puis on la filtre avec des tamis spéciaux et on récupère des petits morceaux de poussière. La sonde Stardust en a récupéré à peu près 1000 grains. Ces grains de poussière, ce sont des silicates. Il y a de l'olivine, il y a des spinelles d'aluminium, il y a des sulfures. Ça a une structure cristalline, mais certains d'entre eux contiennent des molécules organiques, jusqu'à la moitié de leur poids. C'est de la matière organique quand même assez primitive. Mais à la lumière des résultats de la sonde Rosetta, ça ne surprend pas parce que cette sonde a montré que la comète Shuri, eh bien, à sa surface, il y avait beaucoup de matière organique. Les amis, chez vous, la poussière, c'est pas vraiment précieux. Mais par contre, celle qui vient de l'espace, là, celle-là, oui, c'est autre chose. Hein. Parce que ces petits grains de poussière de rien du tout, ça nous donne des informations sur l'origine des comètes. Est-ce qu'elles se sont formées? À quel endroit elles se sont formées? Quelle était la composition de l'endroit où elles se sont formées? Et par là même, ça donne des renseignements sur les premiers instants du système solaire. Ça nous raconte l'histoire du système solaire. Maintenant, on passe à des morceaux de plus gros calibre, hein, au moins du centimètre jusqu'à quelques kilomètres. Dans le ciel, lorsqu'il rentre dans l'atmosphère, le phénomène lumineux associé ressemble à une étoile filante, mais en plus long, 4-5 secondes, avec souvent une augmentation de luminosité vers la fin. C'est ce qu'on appelle un bolide. Et des bolides, on peut en voir assez souvent dans le ciel. Plus l'objet qui arrive est gros, plus longue, plus lumineuse et plus persistante est la traînée dans le ciel. Parfois même, on peut la voir en plein jour. C'est ce qui s'est passé le 15 février 2013, lorsqu'un morceau d'une vingtaine de mètres est entré dans l'atmosphère au-dessus de Tcheliabinsk, c'est en Russie. C'était 9h du matin, il y a eu des milliers de témoins qui l'ont vu, qui ont filmé ce morceau de 13 000 tonnes qui arrivait avec une vitesse de 70 000 km/h. Il a fini par exploser à 30 km du sol en dégageant une énergie correspondant à 30 fois la bombe d'Hiroshima. Ensuite, il y a eu une onde de choc qui a cassé énormément de vitres dans la ville. Il y a des bâtiments qui se sont effondrés. Il y a eu un millier de victimes uniquement à cause de l'onde de choc. Pour le météoroïde, la rentrée dans l'atmosphère s'accompagne bien sûr d'un échauffement, d'une très forte élévation de température, on peut atteindre 4000 degrés. Alors il y a la majeure partie du morceau qui se vaporise. À Tcheliabinsk, sur 13 000 tonnes initiales, on a récupéré une tonne au sol. C'est moins de 0,1%. Lors de la décélération, il y a également des contraintes énormes à l'intérieur du rocher qui vont finir par le faire éclater en 1000 morceaux. Ces météorites, ces pierres qui tombent du ciel, c'est quoi au juste et d'où est-ce qu'elles viennent vraiment? Je dirais en simplifiant qu'il y a deux catégories qui se différencient par leur composition et aussi par leur origine. Ce sont ce qu'on appelle les chondrites et les achondrites. On commence par les chondrites, c'est 80% des météorites. On les appelle comme ça parce qu'on y trouve de toutes petites billes, plus petites qu'un millimètre, qu'on appelle des chondres. Donc chondre donne chondrite. Ces chondres, ce sont du fer métallique qui est entouré de silicate. Ces billes se sont amalgamées dans une matrice où on trouve aussi de l'olivine, des sulfures, ainsi que des inclusions réfractaires, comme le calcium, l'aluminium, et puis des inclusions de fer. On peut avoir jusqu'à 35% de fer. C'est ce qu'on appelle des chondrites ordinaires. Tcheliabinsk, c'était une chondrite ordinaire. Dans certains cas, il peut aussi y avoir des produits carbonés et très peu de fer. À ce moment-là, on appelle ça des chondrites carbonées. On pense que ces petites billes se sont formées dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance au Soleil. Elles se sont regroupées pour former de petits astéroïdes qui sont restés en l'état, tranquilles. C'est un peu comme si on les avait mis au congélateur pendant 4 milliards et demi d'années. Et puis un jour, suite à une perturbation gravitationnelle quelconque, le petit astéroïde s'est retrouvé déstabilisé, chassé de son orbite, et il a fini par être attiré par la Terre où il est arrivé. La Terre ou d'autres planètes d'ailleurs. Ces petites billes, ces chondres, ce sont des témoins de la naissance du Soleil. Et leur étude nous renseigne sur les conditions qui prévalaient à cette époque. Au sol, ces météorites, ces pierres, se présentent comme des pierres assez lourdes, souvent noires, avec des traces de fusion en surface. Mais surtout, elles attirent les aimants. Alors regardez si vous en avez peut-être dans votre jardin. L'autre catégorie, les 20% restants, ce sont des qu'on appelle des achondrites. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas ces petites billes. Pourquoi elles ont disparu, ces petites billes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que certains de ces petits astéroïdes dont je vous ai parlé vont s'agglomérer suite à des collisions. L'astéroïde devient de plus en plus gros au fur et à mesure des collisions et attire de plus en plus de petits astéroïdes. Et la chaleur dégagée lors de ces collisions successives va échauffer le gros astéroïde jusqu'à le faire fondre complètement. Alors commence ce qu'on appelle la phase de différenciation. Ça veut dire que les constituants les plus lourds, le fer et le nickel, vont migrer vers le centre pour former ce qu'on appelle le noyau. Les silicates plus légers vont rester autour du noyau pour former le manteau. On obtient un objet, ce qu'on appelle un objet différencié. Alors, les petites billes, les chondres, ben, elles ont fondu, elles ont complètement disparu. L'astéroïde qui est formé à partir de ces petits astéroïdes homogènes devient un gros objet hétérogène avec un noyau de fer et de nickel au centre et puis un manteau de silicate à l'extérieur, comme la Terre. Et les météorites achondrites proviennent de ces gros astéroïdes différenciés. Alors, soit ils proviennent du manteau, soit du noyau. Ce sont des morceaux qui ont été éjectés par des collisions titanesques, sûrement, qui finissent par être attirés par la gravité terrestre après des milliards d'années d'errance dans le système solaire. Les météorites provenant du manteau, elles sont très difficiles à reconnaître, parce qu'elles ont la même composition et le même aspect que les roches terrestres. Par contre, alors celles qui viennent des noyaux, c'est beaucoup plus facile. Ce sont des morceaux de fer métallique, parfois de forme un peu bizarre, avec des traces de rouille en surface, si elles ont séjourné longtemps à la surface de la Terre. En général, elles contiennent 5 à 15% de nickel, et puis des traces comme de chrome, de gallium, d'iridium. C'est ce qu'on appelle les météorites ferreux, ça représente à peu près 5% des chutes. Beaucoup de météorites proviennent de Vesta. Vesta, c'est le second plus gros astéroïde de la ceinture principale après Cérès. Vesta, c'est 500 km de diamètre. Les photos de Vesta montrent la présence d'un énorme, d'immense cratère d'impact qui est témoin d'une gigantesque collision qui a eu lieu il y a moins d'un milliard d'années. Et la composition de ces météorites est identique à celle du sol de Vesta. Il y en a d'autres qui, on pense qu'elles proviennent de la Lune ou de Mars. Quand ils arrivent près du sol, les petites météorites ne vont pas créer de cratères, surtout si elles sont pierreuses, parce que, en général, elles explosent en plein vol à une vingtaine de kilomètres d'altitude. Les très grosses, et même les petites météorites de fer, vont pouvoir, elles, créer des cratères, parce qu'en général, elles arrivent presque entières au niveau du sol. Et des cratères, on en a dénombré 180 à la surface du globe. Certains sont très difficiles à repérer, parce qu'il y a de l'érosion, il y a de la végétation. C'est par exemple le cas de celui de Rochechouart, c'est près de Limoges, un cratère de 23 km de diamètre. Le plus célèbre, c'est certainement celui de Chicxulub, c'est au Mexique, au Yucatan. Il a été formé par une météorite qui faisait au moins 10 km de diamètre. Et il a joué sûrement un rôle majeur dans la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Le plus touristique, c'est Meteor Crater en Arizona, 1200 mètres de diamètre, 200 mètres de profond. Initialement, les géologues pensaient d'ailleurs que ces cratères étaient d'origine volcanique. Il a fallu attendre les années 30 pour qu'on trouve près de ces cratères ce qu'on appelle des quartz choqués. Et ces quartz choqués ne peuvent se former que sous de gigantesques pressions et ces pressions ne peuvent être obtenues que lors d'impact. Ça clôt le débat et maintenant tout le monde pense, tout le monde est d'accord pour dire que la Terre a bien été bombardée par des météorites géantes dans le passé qui ont laissé des traces, mais c'est pareil pour la Lune, pour Mars, Vénus, Mercure, et la plupart des astéroïdes qu'on a pu photographier, parce que la plupart du temps, leur sol est criblé de cratères d'impact. Dans la seconde partie de l'émission, les amis, je vous raconterai l'histoire de météorites qui sont passées à la postérité. soignée. Dans la première partie de notre émission d'astronomie, aujourd'hui, on a parlé de toutes les météorites qui tombent sur Terre, que ce soit des poussières interstellaires, cométaires ou des morceaux d'astéroïdes. On va maintenant parler de quelques météorites célèbres. D'abord, il y a les sidérites, ces météorites de fer et de nickel. Sur Terre, le fer métallique n'existe pas à l'état naturel, on ne le trouve que sous forme de minerai. Il faut le transformer, c'est ce qu'on appelle la métallurgie, et la métallurgie n'a été inventée que 1000 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, on a retrouvé, dans les tombes égyptiennes, qui datent de 4000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des objets en fer, des armes, des poignards, aussi des bijoux, des colliers de perles de fer. C'était, et les analyses l'ont montré, du fer d'origine météoritique. Aux États-Unis, dans les années 1850-1900, il n'était pas rare de trouver, en labourant un champ par exemple, des morceaux de sidérite. Alors le fer était récupéré et servait à faire des enclumes, des clous, des fers à cheval. Bref, ces météorites américaines ont eu un destin nettement moins respectueux de leur nature extraterrestre que celles qui tombaient au pays des pharaons, vous voyez, au Groenland. Les Inuits utilisent des outils, des harpons en fer, alors qu'ils ne connaissent pas du tout la métallurgie. Ce métal, ils le tirent d'une montagne de fer, dont ils refusent absolument de révéler l'emplacement. Ce n'est qu'en 1894 qu'un explorateur, Perry, parvient à retrouver cette grosse météorite de 30 tonnes qui l'amène non sans difficulté à New York. Alors là, elle est reçue en grande pompe, on la promène dans les rues de la ville, on la met dans un musée. Remarquez au passage que ce Perry n'a eu aucun scrupule à voler, hein, il n'y a pas d'autre terme, à voler la source d'approvisionnement des Inuits en fer. Une drôle d'époque. On a trouvé chez les Grecs, les Romains, les Chinois même, des récits de pierres tombées du ciel, qui remontent à l'Antiquité. Ces pierres qui faisaient parfois l'objet d'un véritable culte. Hein. La première météorite dont la chute a été observée, qui a été recueillie et conservée, c'est celle d'Ensisheim, petit village d'Alsace proche de Colmar. C'est la plus ancienne météorite répertoriée en Europe. Le 7 novembre 1492, vers midi, gigantesque explosion entendue dans toute l'Alsace. À Ensisheim, un gamin voit une pierre tomber dans un champ et creuser un trou d'un mètre de profond. Tout le monde se précipite pour voir et aussi pour prélever des morceaux, ben, souvenirs, je ne sais pas, porte-bonheur, bref, c'est la pagaille. Le bailli d'Ensisheim intervient alors et confisque la météorite qu'il perce au château. À l'époque, Ensisheim est propriété des Habsbourg d'Autriche. Et l'empereur Maximilien arrive 15 jours après avec toute sa cour dans une ville qui est en ébullition. Hein. À l'époque aussi, les Habsbourg sont traditionnellement en guerre contre les rois de France. Et Maximilien est particulièrement remonté parce que le roi Charles VIII a fait annuler son mariage avec Anne de Bretagne. Évidemment, ça crée encore plus de tension, cette affaire. Maximilien se demande si cette météorite qui est envoyée par les dieux, est-ce que c'est un bon ou un mauvais présage? Alors il en discute avec ses conseillers, finalement, on décide que c'est un bon présage. Et aussitôt, Maximilien prend deux morceaux de la météorite et part en guerre contre les Français. Un mois plus tard, il écrase les Français en Bourgogne. Ça se finit par le traité de Senlis. C'était un bon présage. La météorite est restituée aux habitants qui vont la placer dans l'église, mais qui vont l'enchaîner. Et oui, parce qu'ils ont peur qu'elle reparte. Elle va rester prisonnière jusqu'à la Révolution. Puis ensuite, elle va voyager un peu. Elle va partir à Colmar, dans le musée, pendant quelques temps. Puis elle revient à Ensisheim, dans l'église. L'église s'effondre, on la met dans l'école, puis dans la mairie. Actuellement, elle est dans le musée qui est sur la place principale d'Ensisheim. Mais elle a quand même un peu maigri dans l'histoire. Elle est passée de 135 kilos à 53 kilos. Ah oui, et oui, parce qu'à chaque fois qu'il passe une personnalité dans la région, on lui offre un morceau de météorite. Charles Quint en aura un, Turenne aussi. On en envoie un au pape. Et puis, il y a des musées qui en reçoivent aussi. Le musée de Paris en a 8 kilos, par exemple. Puis il y a aussi des prélèvements pour analyse scientifique. Cette météorite, c'est une chondrite très ordinaire, hein, à basse teneur en fer. Si vous passez par là-bas, allez la voir, les amis. Maintenant, il y a une association, la confrérie des gardiens de la météorite, qui veille sur elle. Une autre chute de pierre passée à la postérité, c'est celle de L'Aigle. L'Aigle, le petit village de Normandie. 26 avril 1803, 13h, la commune est frappée par des milliers de pierres. Leur chute est précédée d'un bruit qui ressemble à des coups de canon suivis d'une fusillade, puis des sifflements. Puis plus rien, silence. Les habitants de la région ont aussi aperçu un globe enflammé qui traversait le ciel à grande vitesse. Or, l'affaire fait évidemment beaucoup de bruit. À Paris, le ministère de l'Intérieur charge un savant de l'Académie des sciences, Jean-Baptiste Biot, d'aller enquêter sur place. Et sur place, Biot, il va mener une véritable enquête policière. Il commence par interroger les témoins, tous, les jeunes, les vieux, toutes les classes sociales. Et surtout, il accorde le même poids à chacun des témoignages. Oui, parce qu'à l'époque, vous savez, la parole d'un laboureur avait peu de poids face à celle d'un notable. Ensuite, il dresse une carte des trouvailles. Il constate qu'elles se répartissent selon une ellipse de 8 km de long sur 4 km de large. Cette ellipse est orientée selon la direction du méridien magnétique. Il constate aussi que les pierres les plus grosses, celles qui font 8 kg, les plus petites font une dizaine de grammes. Les pierres les plus grosses se trouvent à l'extrémité sud-est de l'ellipse. Ça donne des indications sur la direction d'arrivée du météorite. Et aussi sur leur vitesse horizontale. Et les analyses chimiques qu'il va faire effectuer montrent qu'elles ont des compositions voisines de celles d'autres pierres qui proviennent d'autres chutes passées. Biot va publier son rapport le 18 juillet. Et dans ce rapport, il conclut, preuve à l'appui, que ces pierres viennent bien du ciel. Et c'est un tournant. C'est important parce que ça met fin à pas mal de controverses et de polémiques sur l'origine de ces pierres. Le grand chimiste Lavoisier pensait que c'était des pierres terrestres qui avaient été frappées par la foudre. Il y en a d'autres qui invoquent une origine volcanique. Mais alors, des volcans en Normandie, il n'y en a pas beaucoup, hein. Seul Chladni, 10 ans auparavant, avait, en étudiant des récits de chutes passées, conclu à une origine extraterrestre. Avec les travaux de Biot, on peut dire que les météorites quittent le domaine du fantasme et de la superstition pour devenir des objets scientifiques. Il y a bien sûr beaucoup d'autres météorites qui pourraient nous raconter leur histoire. Mais je vais quand même terminer par deux événements qui nous touchent de près. D'abord, la météorite tombée en 1868 à Sauguis-Saint-Étienne. C'est en Pays de Soule, entre Mauléon et Tardets. C'est une pierre de 4 kg, une chondrite ordinaire, mais on a très peu d'enseignements sur cette météorite. Mais surtout, je veux vous parler de la grande météorite béarnaise. Eh oui. Celle qui est tombée à Beust, entre Pau et Nailles. Beust, en mai 1859. Cette pierre s'est scindée en deux morceaux, un morceau de 1,4 kg et un morceau de 420 grammes, qui ont été retrouvés à 700 mètres de distance l'un à l'autre. C'était des chondrites ordinaires à faible teneur en fer. Et elles ont laissé des traces, ces pierres, oui, dans la commune. Le bulletin municipal de Beust s'est longtemps appelé la météorite. Le logo de la mairie de Beust représente la chute d'une météorite. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces pierres? Eh bien, c'est ce que j'essaye de savoir, figurez-vous. La petite, celle de 420 grammes, elle a été signalée au musée de Pau, mais il y a eu des recherches précédentes qui n'ont rien donné. La plus grosse, il est possible qu'elle figure entière ou en petits morceaux dans des collections de certains musées. Il paraît qu'il y en a un gramme qui est exposé au musée du Vatican à Castel Gandolfo. Écoutez, je vais essayer d'en savoir plus et je vous tiendrai au courant. Voilà, notre émission va se terminer. Voyez, les amis, toutes ces météorites qui sont restées longtemps mystérieuses, qu'on a cru messagères des dieux, maintenant on a les moyens de les faire parler. Et quand elles parlent, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Elles nous racontent leur histoire. Leur histoire qui est aussi l'histoire du début du système solaire. Et pour les scientifiques, elles sont précieuses. Régulièrement, il y a des campagnes qui sont organisées pour en trouver, surtout dans les déserts, au Groenland, en Atacama, en Antarctique. Enfin, les amis, si vous vous intéressez aux météorites, allez voir l'exposition qui leur est consacrée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, c'est jusqu'en janvier. Voilà, à bientôt, merci de votre fidélité.
Thank you.